Bienvenidos et bienvenidas sur Semillas Latinas, l'émission qui vous fait voyager au cœur de l'Amérique latine pour explorer ses cultures, ses luttes et ses réalités contemporaines.
Semillas Latinas, une émission de Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Ce soir, c'est Manon Mézia et Sylvie Argibet à la présentation de cette émission dédiée à l'Uruguay et à ses politiques sociales avant-gardistes.
Et comme on aime bien le faire, petite entrée en matière décoloniale qui revient sur l'histoire de l'Amérique latine avec l'essai fondateur que vous connaissez peut-être, Las Venas Abiertas de América Latina, les veines ouvertes de l'Amérique latine. Dans cet essai, Eduardo Galeano, auteur uruguayen, y dénonce le pillage économique et idéologique du continent au profit de l'Europe sous l'ère coloniale puis au profit des États-Unis. Hugo Chavez l'a d'ailleurs offert à Obama lors de leur première rencontre, histoire de remettre les pendules à l'heure.
Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Si je dis Uruguay, vous pensez peut-être au Maté, au joueur de foot Cavani ou à sa grande sœur Argentine. L'Uruguay est le plus petit pays d'Amérique du Sud coincé entre deux géants, l'Argentine et le Brésil, ce qui lui a valu d'être surnommé El Paisito, le petit pays avec une population de seulement 3,4 millions d'habitantes et d'habitants.
Mais l'Uruguay s'est également fait connaître pour avoir élu en 2009 le président le plus pauvre du monde. Cette figure n'est autre que José Pepe Mujica, ancien guérillero, célébré à l'international pour son mode de vie modeste. Durant sa présidence, il a refusé d'habiter dans le palais présidentiel pour rester vivre dans sa chacra, sa modeste maison dans la périphérie de Montevideo. Il a également fait don de 90% de son salaire mensuel de président à des associations et avait pour habitude de se rendre au Parlement en sandales. Bref, un mode de vie très semblable à nos élus politiques français, hashtag Manu.
Le mandat de José Pepe Mujica est célèbre, notamment à l'international, pour la promulgation de 3 lois qui ont fait de l'Uruguay un pays à l'avant-garde. En l'espace d'un an et demi sont votés le droit à l'interruption volontaire de grossesse, le mariage entre personnes de même sexe et la légalisation du cannabis. Une première mondiale.
Oui, mais cette ère progressiste de Pepe Mujica s'est terminée en 2020 avec l'arrivée à la présidence de Luis Lacalle Pou du parti de droite conservatrice, le Parti National.
Oui Manon, mais chafouez cette parenthèse, néolibérale, conservatrice et narcopolitique a récemment pris fin. Le 24 novembre 2024, le second tour de l'élection présidentielle uruguayenne a scellé la victoire du Front Large, un mouvement politique rassemblant plusieurs factions de partis de gauche, représenté par Yamandu Orsi, membre du mouvement de participation populaire de José Pepe Mujica, et Carolina Cose, ancienne mairesse de Montevideo.
L'Uruguay se distingue pour être le pays le moins inégalitaire d'Amérique latine qui jouit d'une stabilité démocratique remarquable à tel point que les élections présidentielles uruguayennes de fin d'année 2024 ont été décrites comme ennuyantes par la presse internationale. Est-ce que tu te rends compte de ce manque d'analyse critique, Sylvie ?
Et oui, baptisé la Suisse de l'Amérique latine, l'Uruguay est effectivement l'un des pays les plus stables, notamment économiquement, comparé aux variations complètement folles de la valeur du pesos argentin.
Malgré sa relative prospérité, l'Uruguay est confronté à des défis majeurs tels que la pauvreté, en particulier celle des enfants, de l'ordre de 20%, et les homicides violents liés à l'expansion du narcotrafic.
Quant à la campagne présidentielle, elle a également été marquée par de nombreux scandales de corruption impliquant le gouvernement et en particulier le Parti National. De notre côté, on célèbre la victoire de la gauche, l'investiture de Yamandu Orsi qui a eu lieu le 1er mars dernier, et on répète, aux côtés de la jeunesse uruguayenne, Hoy es un mal día para ser facho. Aujourd'hui est un mauvais jour pour être facho.
Oui, et puis on s'inspire aussi de la philosophie uruguayenne du chafoué. On se détend, on relativise et tant pis. Cette expression indique pas de marche arrière possible et ça représente à merveille la mentalité de beaucoup d'Uruguayens et Uruguayennes que j'ai rencontrés, positifs et hyper résilients face à chaque obstacle. Bref, moi, ça m'aide tous les jours. En ce mois de mars dédié aux luttes féministes, nous ouvrirons cet épisode avec le reportage d'Anaëlle Michel sur le festival de cinéma de Femmes d'Amérique du Sud. Nous écouterons ensuite Astrid Toupiol pour une chronique sur les coopératives de logement en Uruguay. Puis Paloma nous rejoindra pour un micro ouvert sur les politiques sociales avant-gardistes mises en place en Uruguay. En deuxième partie d'émission, nous rejoindrons Pauline Rossano pour une chronique fictionnelle sur la révolte des guerrilleros Tupamaros et le coup d'État de 1973. Sylvie et moi-même clôturons cette émission avec une chronique sur le candombé afro-uruguayen. C'est Mia Satina, c'est jusqu'à 21h sur le 93.9 FM. Buena escucha.
« Salut Anaël, la semaine dernière s'est tenue à Paris la 5e édition du festival Cinéma de Femmes d'Amérique du Sud. La sélection donne à voir des films de femmes et de personnes queer qui n'ont pas encore de distribution en Europe. Et on sait à quel point ce genre d'initiative est crucial, étant donné l'omniprésence des hommes dans tous les métiers les plus valorisés du 7e art et tous les problèmes de non-représentativité que cette discrimination engendre.
Et oui, en France, depuis plusieurs années, la place des femmes dans le cinéma progresse, mais les inégalités de genre persistent. Les professions les plus prestigieuses et les mieux payées de cette industrie demeurent fortement masculines. Pour vous faire une idée, 27%, c'est à la fois le nombre de films réalisés ou co-réalisés par des femmes en 2023 et l'écart de salaire moyen entre les réalisateurs et les réalisatrices. Une différence de rémunération qui se retrouve dans d'autres métiers techniques et parmi les acteurs et les actrices. D'ailleurs, les femmes sont ultra majoritaires dans les métiers des costumes et du maquillage et sont beaucoup moins souvent directrices de la photographie, ingénieures du son ou compositrices. Voilà pour le contexte et face à ces statistiques peu réjouissantes, j'ai eu envie de mettre en lumière une initiative qui me semble assez nécessaire, hélas, pour compenser les difficultés et obstacles qui peuvent entraver les carrières des femmes cinéastes. Du 6 au 9 mars 2025, aux alentours de la Journée internationale des droits des femmes, s'est déroulé au cinéma Reflet Médicis à Paris le festival Cinéma de femmes d'Amérique du Sud, avec à l'affiche une sélection de films documentaires et de fiction réalisés par des femmes et des personnes queer, argentines, brésiliennes, péruviennes, paraguayennes, colombiennes et vénézuéliennes. Des courts et longs métrages aux thématiques et styles variés, mais qui ont la particularité de mettre principalement en scène des femmes et des minorités de genre, pour qui se posent aussi des problèmes d'inclusion et de représentativité de tous les milieux sociaux et surtout de ce que l'on voit, entend, considère le moins. Mona Ross, la sémillante organisatrice de ce festival, m'a fait le plaisir de m'accorder un entretien aux Arches Citoyennes, le tiers-lieu où se trouve son bureau, juste en face de l'hôtel de ville. Je la laisse se présenter.
Je m'appelle Mona Ross, je suis réalisatrice, je suis italo-argentine. J'ai travaillé beaucoup des années dans le cinéma en Argentine, en fait, et j'ai beaucoup des amis qui sont réalisatrices, en fait.
À Paris, Mona a co-créé l'association Ciné Nominé Collectif, qui met en œuvre très régulièrement des expos consacrés aux artistes femmes et LGBTQIA+, et qui coproduit le festival, dont c'était la 5e édition cette année. Je lui ai demandé de m'en dire plus sur la genèse de Cinéma des Femmes.
En fait, au début, j'ai pensé, bah, je suis à Paris, et là, 75 cinémas, presque 400 écrans disponibles dans la ville, et là, programmation folle tous les mois, tous les semaines, je ne sais pas quoi. Pourquoi pas contribuer à la promotion du cinéma sud-américain. Et la première édition, comme c'était en 2021, et tous les cinémas étaient fermés à l'époque, on a fait le festival et tout dans une galerie. Et j'ai un collectif d'artistes avec des amis. On a dit, bah, on va faire quelque chose pour le mois de mars. Et on a fait une énorme exposition de peintures, de photographies. Et mes amis m'ont dit, bah, c'est le moment pour toi, pour faire ton truc avec ton cinéma, quoi. Et c'était une galerie de 300 mètres carrés, je ne sais pas quoi. Et à la fin de la galerie, on a fait une petite salle de cinéma avec une chaise, un mètre en chaise.
Du coup, vous l'aurez compris, il s'agit de donner à voir les œuvres et par conséquent les regards, les intérêts et les corps de personnes invisibilisées. L'effacement des femmes et la sous-estimation de leur importance, phénomène récurrent à travers l'histoire et dans beaucoup de cultures patriarcales, se manifestent d'ailleurs dans des sphères aussi varié que le domaine scientifique, la politique, mais aussi bien sûr les arts. Et c'est précisément le sujet d'un film que j'ai adoré, Mulheres Radicais, d'Isabel Nascimento Silva et d'Isabel Di Luca. Un superbe documentaire qui raconte l'exposition éponyme, Radical Women, présentée dans 3 musées aux États-Unis et au Brésil en 2017-2018, qui donnait à voir des œuvres de femmes artistes latino-américaines qui avaient surtout créé dans les années 1960, 70 et 80 et qui avaient été effacées de l'histoire de l'art contemporain. Les commissaires de cette expo ont donc contribué à écrire un chapitre oublié et plus inclusif de cette histoire de l'art contemporain. Et radical, ces artistes l'ont été par leur démarche, à l'avant-garde d'alors, par les médiums et les sujets choisis, radical aussi par leur positionnement politique dans des contextes difficiles. Et parmi tous ces noms, célébrés pour la première fois à leur juste valeur, 11 artistes ont participé à des rencontres organisées par les réalisatrices du documentaire. Je vais citer rapidement la photographe et photojournaliste Claire Claudia Andujar, connue pour son soutien au peuple Yanomami au Brésil, la bouleversante Cecilia Vicuña, une poétesse, plasticienne, performeuse et activiste chilienne, ou encore Isabelle Castro, artiste féministe qui s'est intéressée entre autres au mouvement des Mexicano-Américains pour les droits civiques et du scandale de la stérilisation des femmes hispaniques à Los Angeles. Ce film fait tout à fait écho à la démarche de Mona Ross, dont le festival Cinéma de Femmes d'Amérique du Sud s'inscrit dans la lignée d'autres festivals exclusivement dédiés aux femmes, tels que le Festival international de films de femmes de Créteil, créé en 1979.
Ici, là, le festival de Créteil, je crois que c'était un des premiers festivals de femmes du monde. Il a 45, 50 ans, mais c'est mondial. Moi, c'est un cinéma des femmes, mais d'Amérique du Sud.
Et par sa propre ouverture à l'international et son énergie débordante, Mona a réussi au fil des années à élargir le rayonnement du festival qui a pris racine dans d'autres grandes villes européennes.
Cinéma des femmes, ça a commencé à Paris, mais ça tourne. Cinéma des femmes est à Rome, à Palerme, à Milano, à Barcelone. Ça tourne parce que je me suis dit, il faut élargir le public et ouvrir différentes fenêtres dans différentes villes. Et comme je suis italienne moi-même et j'ai vécu beaucoup des années en Italie, j'ai dit, je vais le faire en Italie aussi, et Barcelone aussi. Surtout parce que la majorité des films n'ont pas distribution ici en Europe. Donc, il faut ouvrir la possibilité à des autres films sans distribution pour être connus. Parce qu'en plus, il y a un truc super important. La majorité des films ont fait la traduction et le sous-titrage en français. Y en italien. Y ça c'est le cadeau du festival de donner après le sous-titrage en français pour donner la possibilité à la réalisatrice de continuer à promouvoir dans le festival francophone, c'est ça.
Mais qu'en est-il du contenu des films sélectionnés? De quels sujets s'emparent les femmes réalisatrices et lesquels sont mis à l'honneur dans la programmation?
Pour la sélection, en fait, pour moi le plus important c'est l'histoire. Et l'histoire et la façon de raconter la lutte politique aussi, et la lutte sociale. Il faut parler du racisme, il faut parler de la problématique de la crise climatique aussi en Amazonie, tout ça qui se passe, avec les peuples originaux aussi. On essaie de montrer la voix de tout le monde.
On a donc pu visionner des films traitant d'enjeux de société actuelle et plein de personnages féminins complexes, souvent marginalisés, tels que des contrebandières paraguayennes ou une lignée de sorcières colombiennes. Une manière de se réapproprier certains récits, et dans tous les films diffusés, on est loin des stéréotypes véhiculés par le male gaze, la perspective de l'homme cisgenre hétérosexuel qui domine la culture visuelle, avec des archétypes et des fantasmes masculins donnant lieu à des films qui passent pas le test de Bechdel-Wallace, ce test qui met en évidence la sous-représentation de personnages féminins vraiment caractérisé et qui est devenu un indicateur éloquent du sexisme dans les œuvres de fiction. Le terrain de la représentation des femmes au cinéma, comme à la télé, est un champ de bataille stratégique dans la lutte féministe, d'autant plus qu'en termes strictement quantitatifs, les femmes, et notamment les femmes racisées et d'âge mûr, sont très nettement sous-représentées au cinéma. La classe sociale et le handicap ou encore l'orientation sexuelle sont d'autres facteurs conduisant aux inégalités. Et la visibilisation d'identité au croisement de ces multiples facteurs d'exclusion est un des critères de sélection des films diffusés dans le cadre du festival Cinéma de Femmes d'Amérique du Sud. À ce propos, comment ne pas vous parler d'un film qui a pour protagoniste des femmes politiques noires issues de milieux défavorisés? Je veux parler de Semientes, Mulheres Pretas no Poder, des réalisatrices Ethel Oliveira et Julia Mariano. Ce documentaire, dont le titre signifie « Graines, les femmes noires au pouvoir », retrace l'année électorale de 2018 qui a été marquée par le contre-coup de l'assassinat abject de Marielle Franco, une conseillère municipale de la ville de Rio de Janeiro, femme de gauche fortement engagée contre le racisme et la violence policière et qui enquêtait au moment de sa mort sur la corruption. Son assassinat a donné lieu à une mobilisation sans précédent des femmes noires qui ont été 4400 à se présenter aux élections pour siéger au Congrès national et aux assemblées législatives, soit une augmentation de 93% par rapport à l'élection précédente. Le documentaire suit les campagnes électorales de plusieurs femmes qui ont sublimé l'effroi, l'indignation et le deuil en lutte politique dans un climat de tension et d'insécurité exacerbée. Se battre comme Marielle Franco s'était battue est devenu pour elle un mot d'ordre et un cri de ralliement. Et même si le film se clôt sur la prise de fonction de certaines de ces candidates racisées, victorieuses, dans une véritable scène de liesse, il convient de rappeler que cette année-là se terminera par la victoire de l'extrême droite à l'élection présidentielle. Par ailleurs, Mona Ross veille au grain pour visibiliser les minorités de genre.
En parlant de la sélection LGBT, il y a un film magnifique que c'est les scènes Bogin en Rio de Janeiro. Il faut le voir parce que c'est tellement bien. Et en plus, après le film, on va parler avec le réalisateur. Et après, le film d'ouverture qui s'appelle Reas, qui est de Lola Arias, c'est la metteuse en scène et dramaturge. Et elle a fait un film documentaire à la prison. C'est super bien le film. Il a gagné à Berlin en 2024.
Reas, de Lola Arias, c'est à la fois un docu-fiction et une comédie musicale. À la base, la réalisatrice animait des ateliers dans des prisons en Argentine pour aider les détenus à s'évader par des moyens d'expression artistique. Puis, ce sont ces acteurs et actrices non professionnels qui ont incarné leurs propres personnages dans ce film choral en rejouant et recréant leurs souvenirs personnels de détention. Et le drame de ces trajectoires et de l'univers oppressif de la prison cède le pas au rêve, à l'espoir, à l'amitié et à la solidarité. Dans des chants chorégraphiés, interprétés avec une candeur désarmante, ces femmes cis et ces personnes trans parodient le protocole lui-même très chorégraphique de la prison, un microcosme où tous les mouvements sont bien réglés, et expriment leur individualité. C'est à la fois très simple et brillant, et on s'attache à ces interprètes qui se dévoilent dans une œuvre hybride, un choix narratif devenu la marque de fabrique de Lola Arias. Pour conclure, j'ai demandé à Mona de me parler de la place des femmes dans l'industrie cinématographique en Amérique latine.
J'ai fait, avec le collectif 50-50, on a fait un débat justement pour voir l'espace de la femme dans le cinéma. En France, en comparaison avec l'Amérique du Sud. Et justement, on est plus avancé. Parce que là-bas, on a beaucoup, beaucoup de femmes qui travaillent dans la technique déjà et de réalisatrices. Surtout en Brésil et en Argentine, on a vraiment une ouverture pour les femmes qui c'est énorme. Il a commencé une énorme vague de féminisme en Amérique latine et ça, il a poussé. Et pas mal de réalisatrices sont arrivées à Berlin, à Cannes, à San Sebastián, à Venezia, qui vraiment, ils ont fait leur chemin.
Sur cette note positive, je tiens à saluer les initiatives qui, à l'instar du Festival Cinéma de Femmes d'Amérique du Sud, contribuent à promouvoir les œuvres créées par des femmes et des personnes queer, qu'il s'agisse de cinéastes ou d'artistes en général. Et dans le même esprit, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site AWARE, Archives of Women Artists Research and Exhibitions, une association dirigée par l'historienne de l'art Camille Morino, qui depuis une décennie visibilise les œuvres d'artistes femmes et non-binaires. Pour finir, bravo aux artistes femmes qui réussissent ou persévèrent en dépit de toutes les contraintes systémiques, inégalités et stéréotypes de genre qui entravent parfois leur carrière artistique. Et merci encore bien sûr à Mona Ross pour son travail et sa générosité.
Merci à Naël de nous avoir emmenés à la découverte d'un festival féministe et engagé et on se retrouve tout de suite après une pause musicale.
Hoy me elijo privar de irme de... Este
ojos tuyos que sé que me miran a mí. Me voy.
C'était Goury, chanson tirée de l'album Piscina Libre B de l'artiste Isabelle Lenoir qui, à 23 ans, est une des chanteuses les plus connues d'Uruguay. Ses compositions, mêlant candombe, zamba et bossa nova, célèbrent les paysages de la ville de Montevideo.
C'est Millas Latinas, une émission Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Manon, je crois que c'est notre moment de parler de ce pays qu'on aime tant et qui nous a fascinés quasi chaque jour que l'on a passé là-bas, tout comme les politiques progressistes assez avant-gardistes qui ont été mises en place depuis plusieurs dizaines d'années en fait. Bon, avant tout, commençons par une petite ronda de mate.
Salut Sylvie et Manon, et aujourd'hui on a décidé de ne pas faire intervenir des personnes extérieures mais d'échanger entre nous sur les politiques sociales en Uruguay et en essayant de déconstruire un petit peu certains mythes et de comprendre où en est le pays. Sylvie et Manon, vous avez toutes les deux habité en Uruguay plusieurs mois et vous êtes d'ailleurs rencontrées là-bas.
Et oui.
Sylvie, tu as écrit un mémoire qui s'appelle « Le phénomène Pepe Mujica, réflexion sur les politiques avant-gardistes mises à l'œuvre sous son quinquennat », donc entre 2010 et 2015. Et Manon, tu as travaillé dans une ONG qui s'appelle Techo et qui œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations qui vivent dans les quartiers les plus précaires en Uruguay, qu'on appelle les asentamientos. Et donc, c'est à ce titre qu'on va un petit peu échanger aujourd'hui sur ce que vous connaissez de l'Uruguay et puis sur les recherches qu'on a pu faire sur le sujet. Donc déjà, pour commencer, je voulais un petit peu qu'on revienne sur la personnalité de Pepe Mujica. On en a parlé un petit peu dans l'édito de cette émission. L'Uruguay a été marqué par la présidence de Pepe Mujica et parce qu'il a promulgué notamment plusieurs lois sociales et avant-gardistes. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette figure de Pepe Mujica et sur ce qui caractérise son mandat, sa présidence ?
Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur José Pepe Mujica, comme on le surnomme. Bon, déjà, il faut savoir que c'est un ancien guerrillero. Il a été engagé dans une guérilla urbaine qui s'appelle le Mouvement de Libération Nationale Tupamaros, qui était actif dans les années 60 et 70 en Uruguay, notamment à Montevideo, dans la capitale. Et donc, cette guérilla s'est convertie au rétablissement de la démocratie en 84 en parti politique qui s'appelle le Mouvement de Participation Populaire. C'est un parti qui a été fondé en 89 et c'est dans ce parti que Mujica a commencé à militer, à faire campagne aussi pour ensuite devenir président en 2010. Donc avant de devenir président, il a été élu député, sénateur, il a été aussi ministre de l'Agriculture. Et donc, on le caractérise de phénomène de par son passé de guérillero, mais aussi par son charisme atypique, très proche des classes populaires, avec un président qui n'a pas de formation universitaire, alors qu'il y a vraiment une longue tradition en Uruguay où tous les présidents qui ont été élus jusqu'à Pepe Mujica avaient de belles formations universitaires, on va dire. Et donc, c'est vraiment sa proximité avec les populations les plus défavorisées qui font qu'on a vendu cette image à l'international de Pepe Mujica qui refuse d'habiter dans le palais présidentiel, qui habite avec sa femme Lucia Topolansky dans une chacra, donc une espèce de vieille maison à la périphérie de Montevideo, où il habite avec sa petite chienne Manuela qui lui manque une patte. Donc les journalistes arrivent, prennent plein de photos et disent « mais voilà, c'est incroyable en fait, en Uruguay, on a un phénomène quoi, qui refuse d'avoir tous ses avantages en tant que président, qui donne 90% de son salaire à des associations, qui arrive en Parlement vêtu de simples sandales, sans cravate, sans costume. » Donc c'est vraiment une désacralisation du pouvoir qu'on observe dans la figure de Pepe Mujica. Mais donc, il faut quand même mettre en avant que pour arriver à la présidence, il y a quand même eu un long travail aussi de déconstruction de sa personnalité en tant que personne radicale, imprévisible et imprésentable aussi, parce que faire campagne sans costume, sans cravate, c'était assez compliqué pour arriver à la présidence. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il s'entoure de son conseiller en communication, Francisco Bernafa, qui va lui dire « on va te rendre présentable, on va te rendre modéré et on va te rendre prévisible ». Et c'est là où on commence à observer des images de Mujica en costume, avec cravate, qui a un discours beaucoup plus social-démocrate, qui idolâtre par exemple les pays nordiques, la Nouvelle-Zélande, pour leur état social progressiste et non pas radical de gauche guerriero. Donc il oublie un peu, il met entre parenthèses, entre guillemets, la lutte armée, son passé de guerriero, et donc il met vraiment en place une stratégie de modération pour arriver à la présidence de l'Uruguay, en attirant d'une part les populations plus défavorisées qui vont voter pour ce personnage en tant que personne proche du peuple, qui a un langage très simple, qui s'exprime de manière directe, qui ne va pas faire des longs discours incompréhensibles pour la grande majorité de la population. Et d'autre part, il va avoir une tenue plus présentable, un discours plus modéré, un peu plus construit peut-être, pour attirer cet électorat de gauche universitaire, intellectuel. Et pour ça, il s'entoure aussi d'une deuxième personne, qui est Danilo Astiro, qui va jouer le rôle de vice-président durant toute sa présidence. Et donc, voilà, c'est un peu cette stratégie qui a été mise en place, qui a très bien marché, puisque c'est la première fois au monde qu'on a un ancien guerriero au pouvoir. Et ensuite, il y a eu aussi Gustavo Petro, qui a été élu en Colombie en 2023, qui était aussi un ancien membre du M19, une guérilla qui était active aussi dans les années 70 en Colombie. Je ne sais pas si Manon, toi, tu as été attirée par cette personnalité atypique, comme on l'a vendue à l'international.
Si, si, complètement. Et notamment la première fois où, moi du coup, j'étais dans le quartier de Posito, ça montait vidéo, donc vous ne situez pas du tout, mais c'est un quartier plutôt aisé. Et il y avait un centre commercial, le centre Punta Carretas. Et en fait, la première fois que j'y suis allée, le centre commercial, c'est vraiment un énorme centre. Et on m'a dit que c'était une ancienne prison, en fait. Et donc, c'est évidemment marqué nulle part. Et c'est une prison d'où s'est échappé José Pepe Mujica, justement, en 71, grâce à une petite centaine de guerrilleros Tupamaros qui ont creusé un tunnel pendant plusieurs mois pour le faire évader. Donc déjà, on me l'a présenté comme ça et j'étais là, waouh. Donc non seulement un premier guerrillero qui accède au pouvoir démocratiquement, et en plus, il fait partie de ces espèces de légendes-là de la ville de Montevideo. Et voilà, quoi.
Et je crois qu'en plus, Pauline reviendra un petit peu dans la suite de cette émission sur les Tupamaros et le mouvement de libération nationale. Peut-être, du coup, pour revenir justement, nous, à notre sujet des politiques sociales un petit peu de façon plus spécifique. Le mandat de Mujica, il a été marqué par trois grandes mesures. Donc, on a la promulgation de l'IVG en 2012, la légalisation du cannabis en 2013, et également le mariage entre personnes de même sexe en 2013. Peut-être pour commencer sur ces mesures, pour commencer sur la légalisation du cannabis, pourquoi il y a eu cette réforme et un petit peu le bilan aujourd'hui ?
Alors, j'aimerais juste ajouter, avant de creuser le sujet du cannabis, qu'on a aussi souhaité mettre en avant beaucoup le rôle de Mujica dans la mise en place de ces politiques avant-gardistes, avec la légalisation de l'avortement, du mariage entre personnes de même sexe, de la régularisation de la consommation, production et commercialisation du cannabis. Mais il faut surtout mettre en avant le rôle joué par les mouvements sociaux, par les organisations sociales pro-cannabiques, LGBTQIA+, et féministes, qui ont vraiment converger leurs demandes pour faire pression auprès des députés et sénatrices du Frente Amplio, donc le Front Large, qui est cette coalition gouvernementale qui a gouverné l'Uruguay de 2010 à 2015. Et ces personnes, en fait, militantes, qui avaient aussi un certain lien avec le Front Large, parce que c'est un pays où l'Uruguay, où les partis sont très structurés, très importants, où il y a vraiment une tradition de militantisme partisan très importante. Et donc, ces personnes ont profité de leur multipositionnalité militante pour militer au sein de la société civile et des organisations de la société civile et des partis politiques pour faire remonter ces revendications. Et toujours Mujica, dans une tradition de volonté, de respect des volontés populaires, a accepté de mettre à l'agenda politique ses revendications. Mais c'était pas, il n'est pas un défenseur du cannabis, comme on peut voir des t-shirts « Mujica cannabis ».
Non, on reste sur, un homme assez vieux qui n'est pas encore trop dans ces mouvements-là un peu progressistes, mais qui, en effet, a cette tradition d'écouter le peuple et de vraiment promouvoir, en tout cas porter des volontés très participatives et populaires dans la manière de faire politique.
Et en ce qui concerne donc le cannabis, il a été légalisé en décembre 2013, qui est une première mondiale, puisque c'est le premier État au monde à avoir légalisé la commercialisation et production. Donc il y a trois voies possibles pour accéder au cannabis légal. C'est au travers de la culture de plantes de cannabis, avec un maximum de 6 plantes par foyer.
Petit maté, pardon.
Avec aussi la formation de clubs cannabiques, avec une limite de 99 plantes par club. Et aussi à travers la pharmacie, où on est autorisé à acheter jusqu'à 40 grammes de cannabis par mois. Et donc il n'y a que ces trois voies qui sont possibles. En dehors de ces trois voies, c'est considéré comme de la commercialisation illégale. Et cette loi instaure aussi un registre des consommatrices de cannabis qui a été très critiqué par les militantes et militants, puisqu'on instaure en fait un contrôle étatique, vos données supposées confidentielles, mais au vu de l'arrivée au pouvoir de gouvernements extrêmement autoritaires, ça a été aussi un peu le cas avec Lukashenko, voilà une certaine peur des consommateurs de s'enregistrer dans ce registre, et donc il y en a beaucoup en fait qui font défection et qui acquièrent du cannabis de manière illégal entre guillemets, en recourant au marché gris. Donc enfin c'est pas un marché gris, mais plus un achat, par exemple, ah bah voilà, j'ai un ami qui cultive, bon bah je vais lui acheter. Peut-être que lui, d'un côté, il le vend de manière légale, mais il y a une sorte de déviation de produits du marché légal vers une acquisition plus informelle. Le seul problème aussi avec cette loi, c'est que le niveau de THC est assez restreint, puisqu'il est entre 7 et 9%. Et en fait, beaucoup de consommateurs refusent d'acheter du cannabis légal parce que voilà, ils vont dire bah, en fait les effets sont pas du tout assez forts, et en fait on observe un peu que les personnes qui achètent de manière légale, c'est un peu ce qu'on dirait à Paris, les petits bobos parisiens quarantenaires qui ont des enfants, qui veulent se détendre le soir et qui se disent bon bah voilà, je suis à Montevideo, je vais à la pharmacie du coin et on va se faire un peu plaisir.
Globalement,
ce soir,
la première drogue du pays, c'est quand même le maté. Enfin, je sais pas, ça ouais. Dépend de la manière dont tu le prends, à quel point tu considères ça comme une drogue ou pas. Mais vous verrez, si vous allez à Montevideo un jour, dans les rues de Montevideo, tout le monde avec des matés à la main. Et c'est un peu l'aphrodisiaque. Enfin, c'est pas aphrodisiaque du tout, hein, mais c'est un peu l'aphrodisiaque des Uruguayens et Uruguayennes. C'est assez drôle.
Et je sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose à ce moment-là sur le bilan des deux autres mesures, donc de l'IVG et du mariage pour les personnes de même sexe. C'est quand même de trois mesures qu'on fait que l'Uruguay était un pays assez pionnier sur le plan social en Amérique latine, sur le bilan de ces deux mesures.
Oui, en ce qui concerne en fait le mariage entre personnes de même sexe, on va dire c'est un peu moins avant-gardiste étant donné que l'Argentine et le Brésil avaient déjà légalisé le mariage, le concubinage était déjà autorisé en Uruguay. Mais ce qui a fait quand même la une des médias, c'est surtout la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse en octobre 2012, puisque c'est le premier pays démocratique, et j'insiste sur ce mot, en Amérique latine, à avoir légalisé l'IVG. Avant l'Uruguay, il y avait Cuba en 64 sous le gouvernement communiste, mais vu que Cuba n'est pas considéré comme un régime démocratique, voilà. Et donc l'IVG est autorisé jusqu'à la deuxième semaine de grossesse, jusqu'à la 14e semaine en cas de viol, et sans limite en cas de malformation du fœtus ou de danger pour la santé de la femme. Cette loi ouvre le droit aux femmes et non pas aux personnes en capacité de gestation. Oui. Par exemple, et quand on regarde les projets de loi récents qu'il y a eu en 2023 en Colombie, qui a légalisé l'IVG jusqu'à la 24e semaine, ce qui est le double de l'Uruguay, on octroie ce droit aux femmes et aux personnes en capacité de gestation. Donc quand même, c'est une loi avant-gardiste, mais qui comporte aussi beaucoup de lacunes, puisque les femmes migrantes, par exemple, elles ne sont pas autorisées à avorter. Il y a un délai de résidence d'un an qui est exigé. Donc ça veut dire déjà, non seulement vous arrivez sur le territoire, vous souhaitez vous faire avorter, vous ne pouvez pas, mais en plus, quand bien même ça fait plus d'un an que vous habitez en Uruguay, peut-être que vous n'avez pas les formalités nécessaires pour prouver que ça fait plus d'un an que vous habitez dans ce territoire. Parce qu'on voulait éviter ce qu'on dénomine le tourisme abortif. Et donc c'est pour cette raison qu'on n'a pas autorisé les femmes migrantes à avorter. Et par ailleurs, petit parallèle avec la loi cannabis, les touristes sont aussi exclus du marché légal, puisqu'on voulait éviter aussi le tourisme cannabique. Et on peut voir entre ces deux lois un peu des mécanismes de contrôle institués par l'État. Mmh. Aussi, je voulais juste rajouter une dernière chose, c'est que quand bien même cette loi, d'un point de vue juridique, elle existe, on observe un taux d'objection de conscience énormissime. Donc c'est des médecins objecteurs qui refusent de pratiquer l'avortement pour des valeurs religieuses ou personnelles. Et en fait, d'après les données des autorités sanitaires, le taux d'objection de conscience, il est de 30%. Mais d'après les recherches menées par beaucoup d'organisations féministes, en fait, on observe qu'il y a certaines municipalités comme Colonia del Sacramento où le taux d'objection de conscience dans certains hôpitaux publics est de 100%. Mais la loi oblige quand même les médecins à rediriger les femmes qui souhaitent avorter vers des hôpitaux avec des médecins non logés.
Et en dehors de ces contraintes-là, en fait, il y a aussi l'accès tout simplement à l'information et aux centres de soins et aux médecins. Notamment, il y a 7% de la population qui vit dans des asentamientos, qui sont ce qu'on appelle donc, du coup, les quartiers précaires, les bidonvilles en Uruguay. Et donc, c'est 7% de la population uruguayenne. C'est assez énorme. Et ces personnes-là, on parle vraiment de pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un logement extrêmement précaire, en bois ou en tôle. Ça peut être aussi en moellon et en briques, mais dans tous les cas, il y a un accès à l'électricité, au réseau d'assainissement, au centre de santé, à l'éducation, à l'eau potable, qui est extrêmement réduit. Et donc ça, encore une fois, José Pepe Mujica a œuvré aussi par plusieurs plans et lois pour essayer de lutter contre ça, notamment le plan Juntos, qui était un de ses grands plans pour lutter contre cette précarité du logement, qu'il a mis en place en 2010. Et qui met en place un mécanisme assez propre à l'Uruguay, un mécanisme de participation communautaire. Donc en fait, c'est les familles de ces asentamientos avec des bénévoles qui reconstruisent leur maison grâce à des dons d'entreprises, de particuliers et un financement de l'État. Et ça, c'est assez beau comme proposition. Et moi, quand je travaillais du coup dans l'ONG Techo, elle travaillait sur le même, pas avec le plan Juntos de l'État, mais sur les mêmes mécanismes de participation communautaire et de bénévolat. Et c'est aussi une manière de développer le pays, même si j'aime pas beaucoup ce mot, mais de développer le pays de manière assez, pas populaire, mais en tout cas sur des principes participatifs et en incluant les personnes. Et donc du coup voilà.
Mmh. Oui, et surtout, c'est un plan de construction de logements. Les principaux bénéficiaires sont des personnes qui étaient en situation d'indigence ou d'extrême pauvreté. Oui. Et aussi, il faut savoir que 90% des participants et participantes sont des femmes seules avec des enfants, oui, à charge. Donc il y a vraiment aussi une volonté, comme tu disais, de participation politique au sein même des asentamientos du plan Juntos, avec des référents de quartier, mm-hmm, qui instaurent des assemblées politiques pour prendre des décisions collectives, quoi. Et ce qui est assez beau à voir.
Oui.
Eh ben, merci Manon et Sylvie, on arrive déjà à la fin de cet échange. Je pense que ça nous a permis d'avoir un bel horizon, un état des lieux des politiques progressistes en Uruguay et de ce qu'il y a aussi à nuancer. Donc merci pour ces précieuses informations et je vous redonne tout de suite le micro pour la suite de cette émission.
et nous continuons cette émission avec Astrée et qui semble se transformer en une petite série sur les communs fonciers urbains en Amérique latine. Après le Brésil il y a quelques mois, elle nous emmène aujourd'hui en Uruguay pour découvrir un modèle alternatif d'accès au logement, les coopératives d'habitat.
Et oui, souvenez-vous, nous avions déjà exploré ensemble les communautés agro-urbaines dans la périphérie de Rio, où le mutilão, l'autoconstruction collective, permettait aux habitants de produire leur propre logement social. Cette fois, direction l'Uruguay, où depuis plusieurs décennies, un autre modèle se développe pour répondre aux besoins des ménages modestes. Pour mieux comprendre, un peu de contexte. Selon les Nations Unies, près de 40% des familles en Amérique latine n'ont pas accès à un logement considéré comme digne, alors même que la région connaît l'un des plus forts taux d'urbanisation au monde. Et cette situation alimente des inégalités croissantes, entre quartiers ultra privilégiés et zones précaires marquées par la spéculation immobilière et l'exclusion des plus pauvres. On a en tête les images des livres d'histoire géo avec d'un côté des quartiers surprivilégiés qui côtoient des quartiers précaires dits bidonvilles. Face à cela, l'Uruguay innove avec un modèle unique, les coopératives de logement en autogestion, basées sur l'autoconstruction et la propriété collective.
Ça mérite de s'y intéresser de plus près. Comment fonctionne ce modèle ?
L'idée centrale repose sur une séparation entre le bâti et le foncier. Mais qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est le sol, donc le foncier, qui appartient collectivement à une coopérative d'habitants, évitant ainsi toute spéculation. Et les logements, donc le bâti, sont la propriété des résidents qui participent activement à leur construction. Ce système réduit le coût d'accès au logement, renforce la solidarité entre habitants et permet d'échapper aux logiques du marché immobilier traditionnel. L'origine de ce modèle remonte aux années 1960, dans un pays où les coopératives étaient déjà très présentes dans d'autres secteurs, industrie, transport. À ce moment-là, il y a une loi innovante qui a alors structuré leur fonctionnement et leur financement, ouvrant la voie à la généralisation de ces projets avec la possibilité d'obtenir un prêt d'État pour ce faire. Et bien sûr, tout cela étant soutenu par des mouvements populaires.
À ces spécificités juridiques et organisationnelles s'ajoute la lutte populaire contre la dictature et pour une société plus juste.
C'est exactement ça. Un des piliers de ce mouvement est la FOCVAM, la Fédération Uruguayenne de Coopératives pour l'Aide Mutuelle, créée dans les années 1970 pour défendre le droit au logement et promouvoir l'habitat coopératif. Aujourd'hui, plus de 730 coopératives en font partie.
Le coopérativisme est une herramienta de transformation sociale.
Son modèle repose sur plusieurs principes. D'abord la solidarité, donc chaque famille contribue à l'effort collectif, la participation démocratique, donc en gros les décisions sont prises collectivement durant tout le processus, c'est aussi l'autogestion, et la propriété collective pour éviter la spéculation, et enfin l'aide mutuelle. Concrètement, il est demandé un effort conjoint de chaque famille bénéficiaire dans la construction des logements. Chaque contributeur contribue à hauteur de 21 heures de travail par semaine.
Esto se ayuda mutua, esto que hicimos nosotros. Levantamos paredes nosotros. Nosotros levantamos las paredes, los cooperativistas levantamos las paredes, los cooperativistas hicimos los cimientos.
Et selon Benjamin Naoum, conseiller de la FOCVAM et professeur à l'Université de la République d'Uruguay, ce modèle va bien au-delà de la simple production de logements.
Il est capable de créer de la citoyenneté, de l'inclusion et d'ouvrir le regard sur d'autres formes d'organisation sociale.
Et ça fonctionne. La FOCVAM a été récompensée par le prix ONU Habitat en 2012 pour son impact positif sur le logement social et la démocratie participative, notamment féminine.
Félicitations, compañeros, y a disfrutar la casita.
Est-ce que ce modèle arrive à inspirer d'autres initiatives Astrée ?
Eh oui, la reconnaissance de la FOCVAM est internationale et sa réussite inspire d'autres initiatives, notamment grâce à des collaborations sud-sud. Des expériences similaires voient le jour en Bolivie, au Costa Rica.
Et en France ?
Alors en France, l'idée fait son bout de chemin, notamment à travers les organismes de foncier solidaire, OFS. Mais en Europe, c'est Barcelone, où l'habitat coopératif connaît un essor important.
Mais alors, ces coopératives d'habitat sont-elles une alternative sociale et politique à la production capitaliste du logement ?
Comme le souligne Américo Mariani, sociologue urbain à Toulouse, ces initiatives ne sont pas seulement des solutions au mal-logement.
Elles constituent une véritable alternative au modèle dominant, intégrant le logement comme un projet collectif et non comme une marchandise.
De leur côté, les chercheuses Irène Valli-Tutto et Claire Simoneau voient dans ces expériences un contre-référentiel dans les débats internationaux sur l'habitat abordable.
À Semillas Latinas, nous avons à cœur de faire connaître ces modèles novateurs du Sud global, car ils portent des solutions concrètes face aux crises du logement partout dans le monde.
Et merci à Stré pour nous faire découvrir ces alternatives urbaines. Vous êtes toujours en direct sur Radio Campus Paris avec l'équipe de Semillas Latinas.
Et on te retrouve maintenant, Pauline, pour une chronique fictionnelle « Amaro et les Tupamaros ». Au début des années 70, à Montevideo, au moment où la dictature militaire prend place au pouvoir, Amaro, un jeune étudiant, enquête secrètement sur la mystérieuse disparition de son père.
29 novembre 2009, village Cabo Polonio, Uruguay, 21h10. Assis dans sa cuisine, Amaro, 60 ans, suit attentivement l'élection présidentielle uruguayenne à la radio.
La corte électorale uruguaya dio el escrutinio final de la selección.
José Mujica, aussi nommé Pepe, est sur le point de remporter le second tour à la tête de la coalition de gauche Front Large. Cet ancien guerriero Tupamaro, qui a passé 14 années en prison lors de la dictature dans les années 70. Oui, Amaro se souvient. Les Tupamaros. Ce groupe de guerrieros d'extrême gauche qui prôna l'action directe et la guérilla urbaine dans les années 60 et 70. Soudain, une pensée l'attire jusqu'à sa chambre, où dans le tiroir de sa table de chevet, il trouve une photo en noir et blanc. Cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas posé les yeux sur cette photo. Et pourtant, elle lui est si familière. Il retourne d'un pas lent s'asseoir dans sa cuisine, au moment même où la radio annonce les résultats. Mujica est élu président. Juin 1974. Montevideo, faculté des sciences sociales, 13h. L'amphithéâtre du professeur Ramirez est plein à craquer. Parmi la foule impatiente et électrique, un jeune étudiant cherche désespérément une place. Soudain, une jeune fille l'appelle. « Amaro, viens, il y a une place ici !» L'atmosphère est lourde. Des gardes surveillent le cours au fond de l'amphi. Le professeur Ramirez les observe en silence, puis commence son cours. C'est un cours d'histoire. Sur Tupac Amaro, un chef indien révolutionnaire du XVIe siècle au Pérou. Amaro, enfin assis, laisse tomber de sa poche une photographie en noir et blanc. Aussitôt, la jeune fille le ramasse et lui demande « Qui est-ce ?»« C'est mon père », lui répond Amaro. 14h30, appartement de l'oncle d'Amaro. Amaro est rentré chez son oncle. Tous deux regardent le match de foot. Après une longue hésitation, il lui demande s'il connaît cette photo. Celle où son père, aujourd'hui disparu, pose fièrement. Son oncle lui demande où il a eu cette photo. Il semble perturbé à la vue de son frère, jeune et souriant, entouré d'un groupe d'hommes tous vêtus de la même façon. Amaro lui demande s'il connaît ces hommes, mais l'oncle rétorque qu'il n'en sait rien. Alors Amaro continue en lui demandant s'il sait pourquoi son père a mystérieusement disparu le soir du 4 décembre 1966, alors qu'il n'avait lui que 12 ans. « Laisse ton père reposer en paix », lui dit son oncle. Le lendemain, 11h. Lorsqu'Amaro arrive devant l'entrée de l'université, en retard comme à chaque fois, celle-ci est bloquée par un groupe d'étudiants. Un panneau signale que le professeur n'assurera pas le cours. La rumeur se répand qu'il aurait disparu hier, peu de temps après avoir fini son cours. Est-ce vrai ? Un mois plus tard, juillet 1974, Amaro est en pleine manifestation. Il n'y a pas eu d'enquête sur la disparition du professeur Ramirez, et cela a fait grand bruit auprès de la jeunesse révoltée, opposée au régime militaire. Car en effet, depuis le 27 juin 1973, le régime uruguayen a été renversé par un coup d'État. L'armée a dissous le Congrès et l'a remplacé par un Conseil de l'État. Le pays est sous surveillance de l'armée. Les gardes présents dans l'amphi le jour de l'enlèvement du professeur n'étaient pas là par hasard, pense alors Amaro. Le professeur Ramirez était-il un opposant politique ? La manifestation est très vite réprimée, les gardes n'hésitant pas à frapper les étudiants. Certains sont emmenés de force dans des bus blindés. Amaro, lui, prend la fuite. Mais il va chercher à savoir pourquoi le professeur a disparu. Il collecte auprès de proches, des citadins inquiets, quelques témoignages, mais rien. Après plusieurs mois de dictature, la censure s'est généralisée dans le pays. Les livres de Freud, Brecht, interdits. La musique de Carlos Gardel, interdite. « Un soir, en rentrant chez lui, Amaru remarque qu'une voiture le suit lentement. Soudain, de la voiture sortent plusieurs hommes cagoulés qui l'enlèvent. Après un trajet qui lui semble une éternité, la voiture s'arrête. Amaru est conduit dans une sorte de bunker au milieu de nulle part. Angoissé, il attend de connaître son sort. Quand il entend des hommes qui parlent derrière la porte, il lui semble reconnaître une voix. Une voix qu'il n'a pas entendue depuis longtemps, mais qui lui est chère. Quand la porte s'ouvre enfin, un homme entre et le salue d'un sourire triste. Son père vieilli se trouve devant ses yeux. Rodrigo, le père d'Amaru, n'avait pas été enlevé. Il était rentré en clandestinité. À ses côtés se trouvent José Mujica et Raúl Sendic. Tous font partie du mouvement de libération nationale, le MLNT, aussi connu sous le nom de Tupamaros. Ils sont surnommés les Robin des Bois. Leur but, prendre aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Braquage de banque, enlèvement et demande de rançon. Leur volonté de faire primer la ruse font que le recours à la force armée est extrêmement encadré. Ils combattent depuis 10 ans ceux qui à présent ont pris le pouvoir et qui n'hésitent pas à torturer ou enlever les opposants. L'enquête que menait Amaru pour retrouver son professeur disparu le mettait vraiment en danger, alors son père l'a enlevé pour le protéger. 29 novembre 2009, 21h30. Amaru exulte en entendant les résultats de l'élection. Mujica, président ! C'est une nouvelle qui le réjouit profondément. Amaru pense à son père, compagnon de longue date de Mujica, mais aussi à son professeur, jamais retrouvé. Tous les deux auraient été si heureux ce soir.
Merci Pauline. D'ailleurs, petit truc littéraire, l'autobiographie roman Tupa Madre de l'Uruguayenne Lucia Echar, qui nous raconte l'histoire de sa famille ex-guerriera, guerrieros uruguayenne, et une enfance queer ressaisie politiquement. Tupa Madre comme Tupa Maros et Puta Madre, une écriture expérimentale géniale. Et à présent, musique maestro.
Cuando se cuelga el tambor, desfila isla de flores, la gente del balcón abriendo el corazón. Baile y toque el tambor, papeles de colores, la fiesta comenzó. Cuando se cuelga el tambor, desfila isla de flores, la gente del balcón abriendo el corazón. Baila y toca el tambor, papeles de colores, la fiesta comenzó, comenzó, comenzó. No sé qué estuvo mal lo de ayer, qué va a pasar después. No sé por qué correr atrás de lo que no es, perdido en todo eso y gastando piel y hueso. No sé por qué correr en base al peso, no va conmigo todo eso. Atrás de lo que no es, no. Así no me hallo yo. Cuando se cuelga el tambor, desfila isla de flores, la gente del balcón abriendo el corazón. Baile y toque el tambor, papeles de colores, la fiesta comenzó. Cuando se cuelga el tambor, desfila isla de flores, la gente del balcón abriendo el corazón. Baile y toque el tambor, papeles de colores, la fiesta comenzó. Cuando se cuelga el tambor, desfila isla de flores, la gente del balcón.
Vous venez d'entendre le duo uruguayen composé de Cass et Guillermo Saporta et leur chanson Isla de Flores qui nous importe dans les rues de Montevideo à la rencontre des tambours du quartier de Palermo et de la rue Isla de Flores et qui nous emmène tout droit à la prochaine chronique.
Et oui Sylvie, c'est l'heure de parler à nos chers auditeurs de ces fameux tambours qui résonnent dans les rues. Il s'agit bien du candombe, un genre musical et une pratique communautaire inscrit en 2009 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.
Le Candombe représente la manifestation culturelle la plus notoire de la communauté afrodescendante uruguayenne. Cette pratique musicale a été importée en Uruguay par les esclaves africains arrivés dans le Rio de la Plata durant le XVIIIe siècle. Une fois sur le territoire uruguayen et soumis à la propriété de leurs maîtres, les esclaves africains sont parvenus à créer des formes de regroupement. Les Salas de Naciones ou Salas de Candombe étaient des sociétés d'entraide contrôlées et gérées par des personnes africaines qui leur permettaient de conserver leur structure sociale, leurs croyances religieuses et leur propre langue. Il s'agissait d'un lieu culturel où étaient pratiquées des danses et des chants africains.
Oui, à ses débuts, le candombe est une pratique culturelle qui reste confinée dans l'espace privé du fait de l'annihilation de leur culture que subissent les populations noires et afrodescendantes. Et c'est à la sortie de la dictature, en 1984, que le candombe s'expose dans l'espace public et fait l'objet d'une réappropriation culturelle. Progressivement, la classe moyenne blanche uruguayenne s'initie à cette pratique musicale. Le candombe est peu à peu resignifié, alors que jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, le candombe était une pratique exclusivement associée à la population afrodescendante et non reconnue par la société uruguayenne. Désormais, cette pratique culturelle fait partie du patrimoine national musical.
Les week-ends des jours fériés, aux alentours de 18h, les appels de tambours de candombe retentissent dans les quartiers de Palermo, Barrio Sur et Cordon, au sud de la capitale de Montevideo, où réside une grande partie de la population d'origine africaine. Pour marquer le début des festivités, des feux communaux sont allumés autour desquels les candomberos se rassemblent pour accorder leurs tambours et discuter entre eux avant le défilé. Dès les premiers retentissements de tambour, les habitantes et habitants du quartier se réunissent de manière spontanée pour participer au défilé de candombe qui a principalement lieu dans la rue Isla de Flores, traversant les trois quartiers traditionnels du candombe. Entre amis ou en famille, les danseuses, danseurs et amateurs accompagnent le défilé en sirotant un maté ou en buvant une bière ou une brique de vin pour les plus vaillants. Une fois le défilé lancé, les différentes comparsas s'engagent un dialogue entre les trois tambours. On distingue trois sortes de tamboris, le chico, le plus aigu, le requipe, le registre médium, et le piano, le son le plus grave. Le système d'appel et de réponse entre les tambours de candombe a comme double fonction d'être le trait d'union entre les trois quartiers et de faire ressortir leurs identités respectives.
L'ambiance qui se dégage de ces moments auxquels nous avons pu assister est assez magique. Les flammes des feux puis les lumières de la rue, de plus en plus faibles, dansent sur les tambours et sur les visages concentrés, heureux et presque mystérieux des musiciens, musiciennes et danseuses. Et nous, on a été comme transcendés.
Transmis au sein des familles d'origine africaine, le jeu de tambour à Montevideo est l'expression d'une résistance qui passe par la réaffirmation de l'identité noire de cette musique. Mais c'est aussi l'occasion d'une pratique sociale collective profondément enracinée dans la vie quotidienne des quartiers.
Mais la pratique du candombe n'est pas exempte de stéréotypes de genre. Il y a une vraie division sexuelle de cette pratique musicale. Les femmes sont majoritaires à danser et rares sont celles qui jouent du candombe. À l'inverse, les hommes s'imposent sur la scène candombera, mais rares sont ceux qui dansent.
Oui, et une des stratégies impulsées pour rompre avec ces normes sexistes a été la création de comparsas de candombe militantes, exclusivement composées de femmes et de personnes issues de la communauté LGBTQIA+. Ces comparsas dissidentes renversent les normes de genre. Femmes cis, hommes cis, personnes trans et non-binaires interprètent différents rôles qui ne leur sont traditionnellement pas assignés par la société.
Lors d'un passage à Montevideo, le candombe reste une expérience captivante.
Nous voici à la fin de cet épisode consacré à l'Uruguay, à sa culture, ses dynamiques sociétales et à ses politiques progressistes. J'espère que cette immersion dans le paisito vous a plu et si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'Uruguay, je ne peux que vous recommander de voir le film Mateína, réalisé par Pablo Abdala et Joaquín Peñagarricano, qui dépeint un Uruguay rural dans lequel la consommation de yerba mate a été interdite. C'était Sylvie et Manon à la présentation et nous remercions Mickaël Adarve à la réalisation et toutes nos chroniqueuses et coproductrices de cette émission.
Et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode et en attendant vous pouvez écouter la super émission spéciale 8 mars, coproduite par Radio Campus Paris, les émissions La Matinale de 19h, On se lève et on se casse et nous-mêmes. dans laquelle nous abordons la santé des femmes et des minorités de genre dans une perspective féministe et décoloniale. C'est sur Radio Campus Paris et Spotify, Santé les Russes, une émission remède contre le patriarcat. Bonne soirée!